Chapitre 16. Reichshofen. Tout à coup, le bruit courut, me dit le brigadier Frédéric, qu'on s'était battu du côté de Wissembourg, et le soir du même jour, des habitants de Neuwiller, se sauvant avec leurs meubles sur des voitures à Lützelstein, racontèrent à la porte de la maison forestière, sans vouloir entrer, que plusieurs de nos bataillons avaient été massacrés, que le général d'avant-garde était resté sur le terrain, que Wissembourg brûlait et que nos troupes se retiraient du côté de Beach. Ces bourgeois étaient comme effarés. Au lieu de continuer leur chemin vers la petite pierre, l'idée leur vint tout à coup que cette place n'était pas assez forte, et malgré le détour de 3 lieues qu'ils avaient fait, toute la bande, hommes et femmes, se mit à grimper la côte du Falberg pour se sauver à Strasbourg. Alors la désolation fut chez nous. La grand-mère gémissait. Marie-Rose allait et venait, toute pâle. Moi, je disais qu'il ne fallait pas se désoler, que jamais les Allemands n'oseraient se hasarder dans nos bois, qu'ils ne connaissaient pas les chemins et d'autres raisons pareilles, qui ne m'empêchaient pas d'être très inquiet, car d'apprendre que des Badois et des Bavarois avaient battu des Français, cela bouleversait toutes mes idées. Je pensais qu'ils s'étaient réunis 10 contre 1, mais le chagrin n'en était pas moins grand. Ce fut notre première mauvaise nuit. Je ne pouvais pas dormir, et j'entendais aussi Marie-Rose, dans sa petite chambre à côté, se lever, ouvrir la fenêtre et regarder. Tout dehors se taisait, comme si rien n'était arrivé. Pas une brindille ne remuait, tant l'air était calme. Quelques cigales nasillaient même sur la terre encore chaude 6 heures après le coucher du soleil. Et, le long de la rivière, des grenouilles faisaient entendre leur chant traînard. L'agitation intérieure m'empêchait de dormir. Sur les 4 heures, Rago se mit à japper en bas dans l'allée. Quelqu'un toquait contre la porte. Je m'habillais, et 2 minutes après, je descendais ouvrir. Un homme, le fils Kleinnickel de la petite pierre, m'apportait un ordre de monsieur l'inspecteur Laroche de venir sans retard. Marie-Rose était descendue. Je ne pris que le temps de casser une croûte, et puis je partis, mon fusil en bandoulière. À 7 heures, j'étais à la porte de monsieur Laroche, et j'entrai. Monsieur l'inspecteur, assis à son bureau, écrivait. « Ah, c'est vous, Frédéric, » fit-il en déposant sa plume. « Asseyez-vous. Nous avons d'assez mauvaises nouvelles. Vous savez que notre petit corps détaché en observation près de Wissembourg a subi un échec. »« Oui, monsieur l'inspecteur. On s'est laissé surprendre, » dit-il. « Mais ce n'est rien, ça n'arrivera plus. » Il paraissait tranquille, comme à l'ordinaire, et dit que dans toutes les guerres, il y avait des hauts et des bas, qu'un premier engagement malheureux ne signifiait pas grand-chose, mais qu'il était toujours bon de prendre ses précautions en cas d'événements plus graves, impossibles à prévoir, qu'il s'agissait donc de prévenir tous les hommes de ma brigade et ceux que nous employons aux travaux des chemins forestiers d'être prêts à marcher avec leurs pioches, leurs pelles et leurs haches au premier commandement, parce qu'il serait peut-être nécessaire de faire sauter des roches et de couper les chemins au moyen de tranchées et d'abattis. « Vous comprenez, » dit-il en me voyant un peu troublé, « vous comprenez, père Frédéric, que ce sont de simples mesures de prévoyance. Rien n'est menaçant. Le maréchal de MacMahon se concentre près de Haguenau. Tout est en mouvement. Nous n'avons rien à craindre d'immédiat. Mais le principal, c'est d'être prêt en cas de besoin. Quand tout est prêt, on agit rapidement et sûrement. Je puis recevoir un ordre du général de Failly de couper les routes et, dans un cas pareil, il faut que l'ordre s'exécute en quelques heures. » « Ce ne sera pas long, monsieur l'inspecteur, » lui répondis-je. « Partout des rochers se penchent sur nos chemins. En tombant, ils entraîneront tout au fond des vallées. »« Justement, » dit-il, « mais d'abord il faut que notre monde soit prévenu. La poudre de mine ne nous manque pas. Si l'ordre arrive, tous mes collègues ayant pris les mêmes mesures, ce sera l'affaire d'une journée de Beach à Dabo. Pas un canon, pas un caisson ne passera d'Alsace en Lorraine. » Voilà ce qu'il me dit en me reconduisant jusqu'à la porte et en me donnant une bonne poignée de main. Comme je m'en allais tout pensif, j'aperçus sur les hauteurs de l'Altenberg quelques soldats en train de planter une ligne de palissades le long de la côte. Le plus grand trouble régnait au faubourg, les gens couraient d'une maison à l'autre chercher des nouvelles. 2 ou 3 compagnies d'infanterie campaient dans un champ de pommes de terre. Tout ce jour et le lendemain, je ne fis que porter les ordres de monsieur l'inspecteur. De la Frohmühle à Eschbourg, d'Eschbourg à Hungerwiller, au Grauftgall, à Metting, etc. Prévenant chacun de ce qu'il aurait à faire, des endroits où l'on se réunirait, des rochers qu'il faudrait attaquer. Enfin, le second jour, je rentrais tellement las à la nuit qu'il me fut impossible de manger, ni même de m'endormir pendant quelques heures. Pourtant, vers le matin, j'avais fini par tomber dans un profond sommeil, quand Marie-Rose, entrant dans ma chambre, m'éveilla en ouvrant la fenêtre du côté de Dosenheim. « Écoute, mon père, » dit-elle d'une voix tremblante, « écoute ce bruit. Qu'est-ce que c'est? On n'entend plus que cela dans la vallée. » J'écoutais. C'était un bourdonnement sans fin qui remplissait la montagne et couvrait de temps en temps le murmure des bois. Il ne me fallut pas longtemps pour comprendre ce que cela signifiait, et je répondis « C'est le bruit du canon. On se bat du côté de Wörth. C'est une grande bataille. » Aussitôt Marie-Rose descendit et, m'étant habillée, je la suivis dans la salle en bas où se trouvait aussi la grand-mère dont le menton tremblait et qui me regardait avec des yeux tout ronds. « Ce n'est rien, leur dis-je. N'ayez pas de crainte. Quoi qu'il arrive, jamais les Allemands ne viendront jusqu'ici. Nous avons de trop bons endroits pour défendre nos défilés. » Mais j'étais bien loin d'avoir confiance en moi-même. Les coups de canon redoublaient quelquefois comme le roulement lointain d'un orage. Puis ils s'affaiblissaient, et l'on n'entendait plus que le bruissement des feuilles, les jappements de ragots devant la porte, le cri d'un canard dans les saules de la rivière. Ces voix de la solitude, lorsqu'on songeait à ce qui se passait derrière le rideau des forêts, avaient quelque chose d'extraordinaire. J'aurais voulu courir sur les rochers, voir au moins ce qui se passait de l'autre côté, dans la plaine, mais l'ordre de commencer les abattis pouvait arriver d'une minute à l'autre. J'étais forcé de rester. Cela dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Je me promenais, tâchant de faire bonne mine pour ne pas effrayer les femmes. Cette journée du 6 août 1870 fut bien longue. Même aujourd'hui, que tant d'autres chagrins nous ont accablés, je n'y pense qu'avec un serrement de cœur. Le plus terrible moment fut encore quand tout à coup ce bruit sourd que nous entendions depuis le matin cessa. Nous écoutions à la fenêtre du jardin, mais plus un souffle, plus un soupir, autre que ceux de la vallée, n'arrivait jusqu'à nous. Au bout de quelques minutes seulement, je dis « C'est fini ». La bataille est terminée. À cette heure, les uns se sauvent et les autres poursuivent. Dieu veuille que nous ayons gagné. Et jusqu'au soir, pas une âme ne parut dans les environs. Après le souper, on alla se coucher dans l'inquiétude. Le lendemain fut un jour triste. Le ciel s'était couvert. Il finit par pleuvoir après 2 mois de sécheresse. La pluie tombait lourde et continue. Les heures se passaient lentement. L'ordre de commencer les abattis n'arrivait pas. Je me disais, c'est bon signe, tant mieux. Si nous avions perdu, l'ordre serait arrivé de grand matin. Mais nous n'avions aucune nouvelle, et sur les 3 heures, n'y tenant plus d'impatience, je dis à Marie-Rose et à la grand-mère, « Écoutez, cela ne peut plus durer. Il faut que j'aille voir à la petite pierre ce qui se passe. » Je mis mon caban de toile ciré, et je partis sous la pluie toujours plus forte. Dans nos terrains sablonneux, l'eau coule et ne détrempe pas le sol. J'arrivai vers 6 heures à la petite pierre où tout le monde se tenait enfermé dans les maisonnettes. À la pointe du vieux fort, dans les airs, veillait une sentinelle hors de sa guérite. Quelques instants après, j'entrai dans le bureau de monsieur l'inspecteur. Il était là, seul, se promenant la tête penchée, l'air soucieux, et comme je relevais mon capuchon, il me dit en s'arrêtant « C'est vous, père Frédéric? Vous venez chercher des nouvelles et prendre des ordres ?»« Oui, monsieur l'inspecteur. » « Eh bien, les nouvelles sont mauvaises. MacMahon a perdu la bataille. Nous sommes repoussés de l'Alsace. 150 000 Allemands s'avancent pour entrer en Lorraine. » Un froid m'avait passé le long du dos et, comme il se taisait, je murmurais. « Tout est prêt, monsieur l'inspecteur. Il ne s'agit plus que de distribuer la poudre de mine et de commencer les abattis. Nous sommes tous prêts, nous attendons. » Alors, souriant avec amertume, sa grosse chevelure brune et bourriffée, il s'écria « « Oui, oui, nous sommes tous comme cela. Le moment presse, la retraite continue par Bitche et Saverne. L'ennemi lance ses éclaireurs dans toutes les directions et l'ordre ne vient pas. » Je ne répondais rien et lui, s'asseyant, s'écria « Au fait, pourquoi vous cachez la chose? Le général de Failly m'a fait répondre que les abattis sont inutiles, que nous n'avons rien à faire. Il paraît qu'il a reçu des ordres de l'empereur. » J'étais enraciné à ma place. Lui s'était remis à marcher les mains croisées sous les basques de sa redingote. Et comme il allait, venait, sans ajouter un mot, je lui demandais « Et maintenant, que faut-il faire, monsieur l'inspecteur ?»« Rester à son poste, comme de braves gens, » dit-il. « Je n'ai pas d'autres ordres à vous donner. » Quelque chose m'étouffait, il le vit, et, me regardant d'un œil humide, il me tendit la main en disant « Allons, père Frédéric, du courage. C'est pourtant agréable de pouvoir se dire la main sur le cœur « Je suis un brave homme. Voilà, voilà notre récompense à nous autres. » Et je répondis tout attendri « Oui, monsieur l'inspecteur, oui, c'est tout ce qui nous reste. Celle-là ne nous manquera jamais. » Il me fit l'honneur de me reconduire jusque dans l'allée, sur la porte de la rue, et me serrant encore une fois la main, il s'écria « Du courage !» Alors je repartis, descendant la grande vallée. La pluie couvrait l'étang de la Fraumule, qui frissonnait tout gris entre les saules et les herbages desséchés. Quant à te raconter les idées qui se suivaient dans ma tête, et combien de fois ma main passa sur ma figure pour en essuyer les larmes et l'eau qui en découlait, quant à te raconter cela, Georges, ce n'est pas dans mes moyens. Il en faudrait un plus savant que moi. Je ne me sentais plus. Je ne me reconnaissais plus. Je me répétais dans le trouble. Le général dit que c'est inutile de faire des abattis et de défoncer les routes. Il a reçu des ordres de l'empereur. Et je marchais. La nuit était noire lorsque je rentrais à la maison. Marie-Rose m'attendait, assise près de la table. Elle m'observait d'un œil inquiet et semblait me demander « Qu'est-ce qui se passe ? Quels ordres avons-nous ? » Mais je ne dis rien, et jetant mon caban tout ruisselant de pluie au dos d'une chaise, secouant ma casquette, je m'écriai « Va te coucher, Marie-Rose. Nous ne serons pas troublés cette nuit. Va dormir tranquillement. Le général de Bitche ne veut pas qu'on se remue. La bataille est perdue, mais nous en aurons une seconde en Alsace, à Saverne, ou plus loin. Les chemins doivent rester libres. Nous n'avons pas besoin de bouger. Les chemins seront bien gardés. » Je ne sais pas ce qu'elle en pensait, mais au bout d'un instant, voyant que je ne m'asseyais pas, elle dit « J'ai gardé ta soupe près du feu, elle est encore chaude. Si tu veux manger, mon père ?»« Bah, je n'ai pas faim, » lui répondis-je. « Allons dormir, il est tard, cela vaudra mieux. » Je ne pouvais plus me contenir, la colère me gagnait. J'entrais dans l'allée, je poussais les verrous et prenant la lampe, je montais. Marie-Rose me suivait. Nous entrâmes dans nos chambres. J'entendis ma fille se coucher, moi, longtemps encore, le coude sur la table, regardant la petite flamme jaune devant les vitres noires où s'agitaient les feuilles de lierre sous la pluie, je restais pensif, clignant de l'œil et me disant « Frédéric, il y a pourtant des ânes en ce monde, et ceux-là ne sont pas à la queue. Ils marchent en tête et conduisent les autres. » Enfin, comme la nuit s'avançait, vers 2 heures, songeant qu'il était inutile de brûler de l'huile pour rien, je me déshabillais et je me couchais en soufflant la lampe. Or, dans cette nuit même du 7 au 8 août, les Allemands, ayant poussé des reconnaissances au loin et reconnu que tous les passages étaient libres, s'avançaient en masse et s'emparaient des défilés, non seulement de la Zinsel, mais encore de la Zorn, investissant ainsi la place de Phalsbourg, dont le bombardement commençait le surlendemain. Ils passaient aussi en Lorraine, par le grand tunnel de Haut-Martin, pendant que MacMahon se retirait à marche forcée sur Nancy et puis sur Châlons. Ainsi la grande armée allemande de Reichshofen, qu'il aurait été si facile d'arrêter plusieurs semaines en Alsace en détruisant les routes de la montagne et en faisant sauter le grand tunnel du chemin de fer, cette armée traversait la chaîne des Vosges et entrait en Lorraine sans tirer un coup de fusil, grâce à l'incapacité de l'empereur Napoléon III, qui nous commandait en chef. L'Alsace était perdue. Il ne faut jamais oublier cela, Georges, jamais !»